BFM Business, l'heure H, la question du jour.
La question du jour, Denis Ferrand, elle est toute trouvée. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général de Rex & Code. Est-ce que les chiffres qui viennent de tomber, donc avec la catégorie A, donc qui baisse, mais on est, enfin, ou qui augmente plutôt, mais qui est par rapport au mois d'avril, évidemment, qui est bien plus élevé. Et qui est bien moins élevé, pardon, et c'est le ABC où on voit quand même le cours de la vie normale. Bon, il est en train de reprendre, non ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Denis ?
Oui, alors c'est vrai qu'il faut peut-être revenir un peu sur la méthode. Je ne veux pas faire un cours de méthodologie statistique.
Non, s'il vous plaît.
On va éviter. Mais en revanche, c'est bien important de savoir de quoi on parle quand on regarde le nombre de demandeurs d'emploi. Vous avez les demandeurs d'emploi qui n'exercent aucune activité pendant le mois d'observation. Ce sont les demandeurs d'emploi de catégorie A. Et vous avez les demandeurs d'emploi qui peuvent exercer une activité partielle. Alors, elle peut être de plus de 78 heures, et dans ce cas, vous êtes une catégorie C, ou de moins de 78 heures pendant le mois, et vous êtes dans ce cas une catégorie B. Mais ce qui s'est passé avec le confinement, c'est que des personnes qui pouvaient exercer une activité partielle s'en sont trouvées empêchées. Arrêt de la restauration, arrêt d'activités de commerce, qui sont des activités qui embauchent beaucoup de salariés à temps partiel. Eh bien, la possibilité d'exercer du temps partiel n'existait pas. Donc, des personnes qui étaient en catégorie B et C sont passées pendant le confinement en catégorie A. Avec le déconfinement, il se passe le flux de sens inverse. Les vases communique, on passe des catégories A aux catégories B et C parce qu'il y a un petit surcroît d'activité, notamment dans les activités de commerce. Et donc des personnes qui étaient jusqu'à présent sans aucune activité reprennent un peu d'activité et donc changent de catégorie. Ce qui compte in fine, c'est de regarder les A plus B plus C.
Et donc c'est plus 61 000 demandeurs d'emploi contre 209 000, enfin 210 000 quasiment au mois d'avril. Donc c'est pour ça que je disais, la vie reprend un peu son cours. Juste puisqu'on est un peu dans la méthode, le chômage partiel, lorsqu'il est financé, lorsqu'il rentre dans le cadre du dispositif du gouvernement, il rentre dans quelle catégorie ?
Il ne rentre pas dans les catégories de demandeurs d'emploi.
Ah c'est ça ?
Tout à fait. La spécificité du chômage partiel, c'est que vous conservez votre relation de travail. Le contrat de travail n'est pas interrompu. Donc vous êtes considéré comme étant en emploi pendant la période de chômage partiel.
D'où l'importance de ce dispositif de chômage partiel et de chômage partiel de longue durée.
Tout à fait.
Est-ce que c'est un chiffre, on voit que donc mai, on rectifie un petit peu le tir par rapport à l'espèce de trou d'air qu'on a connu. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois, Denis Ferrand ?
Sur juin, on aura encore des chiffres qui seront du même acabit, à savoir qu'on aura à nouveau une diminution de personnes en catégorie A. N'oublions pas que le déconfinement avait commencé au 11 mai. Donc, et on sait avec les chiffres de l'INSEE qu'il y a une montée en puissance, si vous voulez, du déconfinement. L'INSEE rappelait qu'en avril, l'activité était 28% dessous de la normale. En mai, on était à 22% dessous de la normale. En juin, on est à 12%. Donc, on va encore avoir cet effet, si vous voulez, de reprise progressive de l'activité. Mais il faut regarder les taux de croissance, et là ils sont très positifs, parce qu'on a une reprise d'activité, mais depuis un niveau très bas. Mais à la fin, on est toujours à un niveau inférieur, un niveau d'activité inférieur à celui que l'on avait avant le confinement. On récupère, oui, mais la récupération est encore partielle, et donc on aura des demandeurs d'emploi toujours en nombre bien plus élevé.
Mais est-ce que vous attendez, quand je disais le calme avant la tempête, est-ce que vous attendez au mois de septembre, enfin la rentrée, où en plus il y aura 700 000 jeunes qui vont débouler sur le marché du travail, plus tous ceux qui ne retrouvent pas un boulot, les plans sociaux, est-ce que vous attendez un dernier trimestre noir ?
Oui, c'est l'étape qui est devant nous. C'est-à-dire que là, on a l'étape confinement-déconfinement qui se traduit par des arrêts brutaux et une récupération brutale. Ensuite viendra la question à partir de septembre, à partir, on va dire, de la deuxième partie de l'automne, parce qu'il y a des dispositifs qui donnent encore un peu de souplesse, un peu de temps, mais on a plutôt devant nous l'accélération du chômage, cette fois-ci pour des motifs de perte d'emploi pour des motifs de licenciement. Donc ça, c'est plutôt à venir que cela ne s'est d'ores et déjà produit. Jusqu'à présent, l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi tenait à l'utilisation des outils de la flexibilité sur le marché du travail. Les contrats à temps partiel, les contrats d'intérim, ce sont ces catégories de population qui ont été concernées par l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi. À partir de l'automne, ce seront d'autres catégories de salariés qui se trouveront concernées, beaucoup plus ceux qui perdront des emplois qui étaient jusqu'à présent jugés durables.
D'accord. Donc on voit bien qu'il y a une vraie évolution. Je recevais il y a quelques semaines Muriel Pénicaud, la ministre de l'Emploi, et qui est... Je lui disais, vous voyez en fin d'année le chômage à combien ? Donc en fait, retour à plus de 10%.
Oui, plus de 10%. Si c'est pas à la fin de l'année, ce serait courant 2021, si vous voulez. Ouais. Mais en tout cas, plus de 10% probablement. Parce que ce qu'il faut bien regarder, c'est in fine où est-ce que s'établit le compteur entre ces, ouais, entre ces coups d'accordéon à la baisse extrêmement violents et à la hausse tout aussi violents. Il va falloir s'habituer à avoir des chiffres spectaculaires à la hausse comme ils l'ont été à la baisse au cours des derniers mois. Mais il faut bien regarder in fine où est-ce que l'on arrive. Et on va arriver avec une perte d'activité au niveau global. Donc on aura un niveau d'activité plus faible que celui que l'on aurait dû avoir s'il y avait eu le passage du Covid. Et c'est cette perte d'activité qu'il faudra répartir entre notamment un peu moins d'emplois.
Alors si on est dans les chiffres du FMI là, qui ont été publiés, on a largement parlé ce matin sur BFM Business, ils sont quand même une récession mondiale à moins 4,9%, 12 500 milliards de pertes cumulées dues au Covid. Est-ce que le FMI broie du noir ou est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Bon, qui font froid dans le dos, hein, lorsque vous regardez la question de dette, le Canada à 109%, le Japon à 268%, l'Italie 166%, la récession moins 12,5%. Bref, on va se mettre la tête sous l'oreiller, là.
Et ils ont pris un peu du noir foncé, quand même. Hein,
Rassurez-nous.
Mais pour prendre simplement, mais c'est de la pure arithmétique. De la pure arithmétique qui montre que, en fait, le FMI, si on reste aux 12% que j'évoquais tout à l'heure de l'INSEE, l'INSEE estime qu'aujourd'hui, on fonctionne à 12%. Imaginons qu'on reste...
La Banque de France est à 11, non ?
Oui.
Voilà, c'est, ouais, bon, bah, 1%, c'est quand même 1%. Oui, mais et vous êtes à combien avec ces codes ?
Pour l'instant, nous, sur l'ensemble de l'année, on estime qu'on sera à moins 10, moins 10,3%. D'accord. Mais imaginons qu'on reste exactement au même niveau d'activité, c'est-à-dire 12% en dessous de la normale, comme le dit l'INSEE pour le mois de juin. Imaginons qu'on reste comme ça jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, à ce moment-là, la croissance en France, ce sera moins 12,4%. Donc en fait, le FMI n'a pas acté le fait qu'il y a un rebond d'activité qui est là, un rebond qui est partiel, et le FMI ne l'a pas d'ores et déjà vu. C'est un peu le problème de ces grandes structures, c'est que ça met un peu de temps avant de réagir, et quand le FMI a sorti ses prévisions, a préparé ses prévisions, c'était encore dans le moment où il y avait un pilotage de toutes les prévisions à la baisse. Or, il y a eu, on l'a vu, un déconfinement qui a été plutôt plus propice à la restauration à la récupération d'activité que ce que l'on pouvait bien imaginer.
Ça veut dire qu'ils sont un peu loin de tout, en fait. Et parce que c'est vrai que lorsqu'on reçoit ici beaucoup de chefs d'entreprise qui nous expliquent, mais ça reprend, les voitures, les concessions automobiles sont pleines. Donc on voit bien qu'il y a vraiment de l'activité. Il y a même le retour évidemment des embouteillages à Paris, mais il y en a tellement que du coup, aujourd'hui, c'est le stationnement alterné, la circulation alternée. Donc ça redémarre.
Oui, il y a bien une récupération, elle est là, mais il y a une partie de ce qui n'a pas été consommé pendant le confinement, de tout ce qui n'a pas été dépensé, qui est en train d'être réintroduit. Mais ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a eu des activités qui ont été touchées par ce choc, qui sont des activités pour lesquelles la perte est en grande partie irrécouvrable. Donc on a perdu, en fait, une proportion importante d'activités, on en récupère un petit peu, mais on va beaucoup plus en perdre de manière permanente que l'on ne va en récupérer. Et donc, in fine, on se retrouvera avec un niveau d'activité plus faible que celui que l'on aurait eu hors Covid à la fin de l'année.
Oui, ça d'accord, mais après, c'est où est-ce qu'on met le niveau, quoi. Vous, on est plutôt dans le V chez vous, chez Rexecode,
ouais,
on est plutôt dans l'alphabet économique, on est où?
Ça va être hyper techno, mais c'est la racine carrée inversée. En gros, on descend, on remonte, mais on remonte moins haut que là où on est parti, et ensuite, on a quelque chose qui est plutôt plus plat que ce que l'on pouvait avoir auparavant. Donc on a bien cette phase qui est très favorable, qui est celle de la récupération. Ne nous leurrons pas, on a encore devant nous le prix de la crise. Et en gros, on estime qu'on va avoir, à la fin de l'année 2021, on aura encore un niveau d'activité qui sera inférieur de 5% par rapport à celui que l'on aurait pu avoir hors Covid.
Si vous ne partagez pas le côté noir, enfin trop noir en tout
cas,
pour 2020 du FMI, est-ce que sur cette perte de valeur de 12 500 milliards d'euros d'activité, c'est un chiffre assez colossal. C'est comme si, je crois, j'entendais, c'est comme si la Chine avait arrêté de produire pendant un an. C'est gigantesque. C'est crédible. Comment est-ce qu'on arrive à des calculs comme ça?
Oui, alors le PIB mondial, estimé vraiment à la très grosse louche, c'est 130 000 milliards de dollars.
D'accord.
Donc 12 500 milliards, c'est un petit 10%. Donc c'est un peu fort, me semble-t-il, en termes d'estimation. l'inflation, mais voilà, c'est ça à peu près les ordres de grandeur. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce que l'on répartit la perte. Et c'est l'autre point que vous évoquiez. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la perte d'activité, elle est compensée en grande partie par de l'endettement public, de l'endettement également d'entreprise. Et donc, c'est la soutenabilité de cet endettement qui est posée. Pour l'instant, il n'y a pas de problème de soutenabilité de cet endettement. Parce que les taux d'intérêt, on sait à quel niveau ils se situent. Et surtout, les taux d'intérêt sont tellement bas qu'ils sont en dessous de la croissance nominale que l'on peut imaginer à long terme.
Et j'en savais quelqu'un, vous connaissez, j'imagine bien, Jean Pisani-Ferry, économiste. Il disait, le niveau d'endettement, ce n'est pas si important que ça. En revanche, c'est l'activité. Il faut à tout prix maintenir l'activité parce que sinon, on retrouve dans une situation à l'italienne, c'est-à-dire qu'on est où l'endettement... étouffe quelque part la croissance. Donc il faut à tout prix maintenir l'activité. Vous êtes d'accord avec lui ?
Tout à fait, et l'Italie en est le parfait exemple. L'Italie est en fait en situation, depuis 20 ans, l'Italie a dégagé un excédent primaire de ses comptes, hein, de ses comptes publics. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a moins de dépenses qu'elle n'a de recettes avant de payer ses charges d'intérêt.
Et donc elle pourrait
se désendetter, mais non, parce qu'en fait, sa charge d'intérêt progresse plus vite que ne progresse sa croissance. Le problème de l'Italie n'est pas un problème de finances publiques, c'est un problème de croissance avant tout.
Voilà, c'est ça, et c'est toute la difficulté.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Plutôt un petit peu, allez, moins négatif en conclusion.
Moins noir, mais la facture est encore en grande partie à payer, notamment sur l'emploi.
Oui, ça, je pense que sur l'emploi, vous avez raison. Merci beaucoup, Denis Ferrand, d'avoir été avec nous, directeur général de Rexecode. Dans un instant, on prend la direction de Nouvelle-Aquitaine, où nous attend l'ancien ministre Matthias Fekel. On parlera de la présidence allemande de l'Europe. Et puis aussi, peut-être, des territoires. Comment est-ce que le plan de relance peut les aider à survivre? À tout de suite.
Très bien.
À bientôt. BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est l'ancien ministre du Commerce extérieur, Matthias Fekel. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et vous êtes en Nouvelle-Aquitaine et la ligne est mauvaise. Comme quoi, lorsqu'on parle du plan fibre, de la qualité de la fibre en France ou de la 3G, de la 4G et que la question de la 5G expose, c'est pas si évident que ça, hein, Matthias Fekel.
Oui, il y en a besoin, même si tout à l'heure, pendant le test, ça fonctionnait. Donc, je le regrette et je présente mes excuses. Il y a évidemment besoin d'équipements extrêmement importants en France et partout en Europe. Je crois que c'est aussi un des enjeux des échéances européennes et en particulier de la présidence allemande qui commence le 1er juillet, que de faire de l'Union européenne un des leviers de la puissance publique pour équiper, relancer et intervenir massivement dans une économie frappée comme rarement au cours des dernières décennies.
Oui, justement, c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir et je vous remercie. C'est que vous êtes franco-allemand, on va le rappeler. Donc l'Allemagne, c'est presque votre deuxième pays. Lorsque vous voyez, donc 1er juillet, la présidence allemande pour l'Union européenne, Emmanuel Macron qui va rencontrer Angela Merkel, on sait qu'il y a eu ce grand plan de relance qui est en train d'être porté par le couple franco-allemand. Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau entre la France et l'Allemagne ?
Oui, je crois. Après des années d'atermoiement et de rendez-vous manqués, en réalité, de décalage dans les cycles économiques, mais aussi de décalage dans les prises de décision, la crise inédite du Covid et l'arrêt mondial auquel cela a conduit, je pense, force maintenant chacun à être à la hauteur de ses responsabilités. C'est vrai pour les États, c'est vrai pour la Commission européenne et c'est vrai pour les actions communes. Donc je pense que là, il y a ce qu'on appellerait un game changer en bon français qui est intervenu au détour de cette pandémie, crise inédite, et le besoin pour l'Union européenne, pour le couple franco-allemand, de proposer des réponses qui soient à la hauteur de cette situation.
Est-ce qu'ils ont enfin compris, je dirais, les Français et les Allemands, enfin ce couple, qu'il faut forcer, un peu le destin européen, sinon il n'y aura plus de destin européen?
Oui, l'Europe s'est souvent révélée dans les crises. Mmh. Et ensuite, on réécrit le passé, on pense que tout était harmonieux. Il y a souvent eu des crises pour faire avancer cela, y compris au temps du général de Gaulle. Mais là, on est dans cette situation. Ce qui est vrai, c'est que je pense que côté allemand, les décideurs publics et privés ont compris que bien sûr, c'était bien d'aller en Chine, d'exporter et d'être partout dans le monde, mais qui qu'il y avait besoin d'une stabilité européenne, d'une confiance européenne, et qu'avec la montée de l'extrême droite partout en Europe, qu'avec la montée de la crise économique, l'essentiel pouvait être remis en cause, et ce, à assez brève échéance. Et là-dessus, je pense maintenant qu'il y a un vrai changement à Berlin, et un retour aux sources un peu sur ce besoin de stabilité des grands partenaires européens de l'Allemagne.
Ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est qu'Angela Merkel, elle, c'est sûr que c'est vraiment une des dirigeantes qui est sortie très victorieuse de cette période du confinement, qu'elle a, du Covid, de la crise, qu'elle a bien suggéré au niveau allemand, et que du coup ça l'a remise en selle politiquement depuis plusieurs mois. On parle de l'affaiblissement évidemment d'Angela Merkel. Là, c'est plus le cas, donc elle sait, ça l'a remise en selle.
Absolument, il y a eu beaucoup d'anticipation d'abord. Oui. Ensuite, il y a eu une gestion extrêmement calme, mais aussi extrêmement déterminée. Et puis, il y a un système institutionnel qui n'est pas le même, hein, qui fait que beaucoup de décisions sont prises au plus près du terrain et que le niveau national ne s'occupe que de l'essentiel. Je pense que tout cela a contribué à créer de la confiance et aujourd'hui à lui donner un taux de popularité assez inédit après 15 ans de pouvoir.
Oui. Avant de parler du plan de relance franco-allemand et puis de votre plan de relance qu'a mis sur la table le Parti Socialiste, est-ce que le fait d'avoir une décentralisation, d'avoir des Länder aussi puissants en Allemagne, vous qui connaissez bien les deux systèmes, encore une fois je rappelle que vous êtes franco-allemand, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer en France? On parle beaucoup de décentralisation, est-ce qu'on pourrait aller jusque là? Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts et quels sont les avantages, les inconvénients des Länder à l'allemande?
Je pense pas qu'on puisse transposer les choses.
Oui.
Et en particulier parce que c'est même pas de la décentralisation, c'est un État fédéral. Et donc les compétences viennent d'abord des Länder, et l'Allemagne est devenue un État-nation très tardivement, au 19e siècle.
Oui.
Donc il n'y a pas du tout la même histoire, il n'y a pas 1000 ans d'histoire de royauté, de révolution, de jacobinisme, de centralisme. Donc oui, on ne peut pas transposer ça. Ce qui est certain, c'est que en prenant des décisions au bon niveau, on crée beaucoup d'efficacité. Par exemple, moi, j'étais très frappé que ce soit au niveau central que doivent se décider la réouverture ou non des parcs dans les villes au moment du confinement. Je veux dire, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens pour les citoyens, ça n'a pas non plus de sens pour les décideurs qui ont autre chose à penser, et les maires sont parfaitement à même de prendre ces décisions-là. Donc je pense que de ce point de vue-là, dans la répartition des compétences, on a certainement beaucoup à apprendre, mais pas à transposer tel quel. L'histoire existe, les différents génies nationaux existent aussi, les cultures politiques existent, et donc rien n'est pire que de prendre un élément comme ça et de le plaquer d'un pays à l'autre.
Est-ce que vous diriez que le 18 mai 2020 restera dans l'histoire européenne? C'est là où a été donc lancé ce plan de relance de 750 milliards d'euros, donc décidé, poussé par le couple franco-allemand, avec les frugaux, comme on les appelle, mais on comprend bien leur logique, qui reste assez résistant. On verra si en juillet, début juillet, on va le signer. Est-ce que le 18 mai est très important pour vous?
Oui, à condition que, c'est la deuxième partie de votre question, à condition que le couple franco-allemand réussisse à convaincre. Le couple franco-allemand est indispensable à la construction européenne, et quand la France et l'Allemagne sont d'accord sur les grandes orientations stratégiques, les choses avancent, mais à condition que ce soit pas fait en imposant tout, il faut qu'il y ait de la discussion. Les pays ont des intérêts à faire valoir et des points de vue à faire valoir. Mais sur le fond, évidemment, il faut que les choses avancent. Donc oui, c'est une date très importante et c'est à la fois une bonne nouvelle franco-allemande, une bonne nouvelle européenne et un succès pour la diplomatie française qui plaidait pour cela depuis de longues années. Maintenant commencent les discussions et donc il faut que chacun s'y retrouve, mais aussi que chacun comprenne que l'effet de levier que ce plan de relance peut permettre est massif. Qu'il sera bénéfique à tout le monde et surtout que personne en Europe ne peut s'en tirer seul. Et y compris les frugaux, comme on dit, honnêtement, je ne pense pas que les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark tiennent longtemps seuls face aux grands pays d'Amérique latine, face à la Chine, face aussi à la concurrence américaine. Mmh. Donc, bien sûr, ce sont de petites économies très ouvertes, très spécialisées, qui peuvent penser tirer leur épingle du jeu autrement. Mais enfin, à terme, je pense quand même que les intérêts et les valeurs européennes doivent être plus fortes.
Je recevais le monsieur économie du Rassemblement National, Jean Messia, donc évidemment assez anti-européen, par rapport à ce plan de relance, et qui disait, mais finalement, ça va coûter plus cher à la France que ce qu'elle va recevoir in fine avec ce plan européen. Est-ce qu'il n'avait pas raison, quelque part?
Je ne pense pas du tout, parce que la France...
Avec la clé de répartition sans...
Non, parce que la France, sans une Europe stable, sans des voisins dont les économies fonctionnent, paiera le prix de manière rapide, hein, que ce soit en termes de tourisme. Je rappelle que la France est la première destination touristique au monde, que ce soit en termes d'exportation et que ce soit en termes de stabilité politique. Donc, un plan de relance, c'est un ensemble. C'est pas un plan comptable qu'on regarde comme ça à 3 mois ou 6 mois. C'est quelque chose qui se regarde sur plusieurs années. Et là-dessus, évidemment, tout le monde, et la France en premier, a intérêt à ce que les choses fonctionnent bien. La France bénéficie de l'intégration européenne. Elle bénéficie de l'euro. Ouais. Et dans des moments de crise, y compris aujourd'hui, où la crise française sera sans doute plus grave que dans d'autres pays, s'il n'y avait pas cet arrimage fort à un ensemble européen, s'il n'y avait pas la stabilité offerte par l'euro... Vous voyez à peu près tout ce qui pourrait se produire en termes de spéculation et d'attaque contre notre pays.
Plaidoyer de pro-européen de Mathias Fekl. Un mot quand même sur la France. Avec le Parti Socialiste, vous avez présenté un plan de rebond social et écologique de 130 milliards d'euros. Vous êtes, je crois, membre du COMEX de la CEPME. Vous êtes multicarte maintenant, Mathias Fekl. Vous êtes même avocat.
Oui. Oui, je ne suis plus dans les instances du Parti Socialiste.
Oui, mais en même temps, vous pouvez avoir un jugement. Ma question était, est-ce que vous trouvez que le jugement du gouvernement, l'action du gouvernement a été plutôt dans le bon sens vis-à-vis des PME et notamment vis-à-vis des territoires d'où vous nous parlez?
Moi, je pense que la réponse à la crise, au moment où la pandémie s'est déclenchée, a été forte, que ce soit sur le chômage partiel, que ce soit sur la mise en place des prêts, que ce soit sur la stabilité qui a été donné. Là-dessus, il y a une réponse très forte, et l'enjeu maintenant, mais je pense que là-dessus, tout le monde se retrouve en réalité, c'est comment on sort de cela. Il y a une période de crise absolue, la réponse a été globalement à la hauteur, me semble-t-il, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que les dispositifs soient pérennisés quand il y en a besoin, soit puissent être adaptés pour que tout ce qui a été sauvé pendant la crise, l'emploi, les entreprises, ne périclitent pas maintenant avec un petit décalage. C'est ça l'enjeu, me semble-t-il, et je pense que toutes les forces républicaines travaillent là-dessus.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc Mathias Fekl, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, donc en direct avec une belle voix, ça tombe bien. On va parler du nouveau pouvoir de la voix dans un instant avec Mathieu Gallet, le président fondateur de Magellan.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, il parle du pouvoir de la voix, c'est pour ça qu'on l'a invité. Mathieu Gallet, merci d'être avec nous. On va rappeler que vous êtes président fondateur de l'application Magellan, que vous avez lancée. Vous étiez venu ici même nous expliquer. On verra où est-ce que vous en êtes. On va faire un petit point, surtout qu'il y a le lancement de la V2 dans quelques jours. Vous avez dirigé l'INA et puis Radio France. Et donc, vous publiez le nouveau pouvoir de la voix, comment l'audio va s'imposer à l'ère digitale. Et c'est au débat public. J'ai envie de dire, je croyais que c'était l'image qui s'imposait. Dans l'ère digitale.
Justement,
c'est les vidéos qu'on voit partout.
C'est ce que je montre dans ce livre. On ne s'en rend pas compte, mais la voix est en train de gagner des pans entiers de nos vies. La semaine dernière, Carrefour a annoncé sa première application de commerce conversationnel avec l'assistant Google. Twitter vient de lancer des tweets audio. Et puis, vous voyez toutes les notes vocales qu'on se partage, ces SMS audio que les jeunes en raffolent, mais pas que les jeunes. Ouais. Aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de communiquer. Et donc, la voix, elle est un peu partout dans ce monde de l'image. Et ce matin, ce midi, je suis chez vous.
Télé-radio, nous, on est les deux.
Et donc, dans ce monde des écrans, en fait, la voix, elle est en train de gagner un peu partout. Mmh. Voilà, moi, j'ai réservé des billets de train, comme ça, avec le chatbot de la SNCF, par exemple.
Oui, on va revenir là-dessus. Tiens, juste puisque vous avez été patron de Radio France, les grèves, vous connaissez. Ici, on a eu un mouvement de grève. On espère qu'on n'aura pas un deuxième, qu'on va trouver un accord. On sort comment d'une grève ? enfin, d'un conflit social très dur.
On sort par le haut, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les partis en présence n'aillent trop loin pour qu'ensuite le retour à la normale soit plus possible. À Radio France, j'avais connu une grève de 28 jours, donc je ne vous le souhaite pas ici. Ouais. Et je pense que c'est effectivement un dialogue constructif et raisonnable dans l'intérêt de l'entreprise. Et je pense que l'intérêt, c'est autant celui du propriétaire que celui des salariés, des collaborateurs. C'est que voilà, les antennes reprennent vite et bien, parce qu'on est quand même dans un monde très chamboulé pour les médias. Et on a besoin des médias dans ce monde chamboulé.
Oui, et pourtant des médias qui sont très fragilisés. Hein, donc ça, c'est sûr. Tiens, et comment est-ce que vous voyez, parce que dans ce moment un peu paradoxal de déconfinement, mais on a bien vu que toutes les audiences ont explosé, mais en même temps, la perte du chiffre d'affaires ici, Next Radio, c'est moins 80%. Donc, si vous voulez, c'est d'une. C'est vrai partout. Hein.
Les business liés à la publicité sont très impactés. C'est vrai que pour des business qui fonctionnent sur l'abonnement, ce qui est le cas de Magellan, c'est pas le cas. On a eu de très beaux succès d'audience pendant ce confinement et je sais que c'est le cas de d'autres services payants. Je pense à Canal+, par exemple, qui a très bien marché. Netflix, on n'en parle pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les médias gratuits financés par la publicité. Et en tout cas, jusqu'à présent, les médias financés sur l'abonnement ont bien résisté.
Oui. Comment est-ce que vous observez tout ce mercato audiovisuel qui va avoir à la tête, hein, c'est-à-dire renouvellement, on l'a vu là, c'était Arte. Finalement, c'est Bruno Patino qui a été nommé, qui succède à Vernucella. Il y a Simone Veil, il y a aussi Delphine Ernotte.
Simone Veil.
Ouais. Ouais,
on a dû lui faire déjà.
Je pense, en plus, oui. C'est la petite fille par alliance, mais enfin, en tout cas, et puis ça commence pareil, ou presque. Pardonnez-moi. Comment est-ce que vous voyez ça va se passer comme ça, à votre avis?
C'est assez classique et voilà, moi je suis ça de loin puisque aujourd'hui je suis entrepreneur. Depuis un an et demi, on a lancé avec Arthur Perticoz cette aventure de l'application Magellan. J'étais venu chez vous il y a pile un an pour la présenter et je vous avoue que j'apprécie la liberté, l'agilité qu'on a en étant.
Vous n'êtes pas candidat à quoi que ce soit?
Pas du tout.
Non. Bon, très vous heureux. Restez entrepreneur.
Très heureux comme entrepreneur.
Oui. C'est quoi les chiffres de Magellan aujourd'hui?
Alors Magellan, c'est une deuxième version qui va sortir dans quelques jours. Donc c'est vrai que.
C'était pas ma question. Ma question, c'était quoi le nombre de.
Alors, on a eu. On communique vous pas sur nos chiffres.
Oui, mais enfin, c'est un peu le moment quand
mais
même.
Plus de 100 000 utilisateurs qui ont téléchargé l'application l'an dernier.
C'est récurrent.
Et puis surtout, non, ce qu'on suit, c'est nos abonnés, puisque nous, on ne vit que de l'abonnement. Mmh. Et au cours de l'année dernière, depuis le lancement de Magellan, il y a un peu plus d'un an, on a eu 30% de croissance de nos parcs d'abonnés chaque mois.
Et donc, ça arrive à combien? Non, mais vous voulez dire, vous partez de zéro, vous faites plus 30%.
On est forcément parti de zéro. Voilà.
Oui,
et ben, tous les mois,
oui, mais
30% de plus.
C'est 30% tout chaque mois.
Oui, on a vraiment une très belle courbe. Et puis là,
mais
cette
c'est
V2
ça se
nous permet
en centaines, en milliers, ça compte en quoi?
On ne va pas communiquer sur nos chiffres, parce que
ça
je ne vais pas donner
pas
des
bons
chiffres.
Bah,
ah, mais vous savez, même Spotify ne communique pas sur ses chiffres d'abonnés. On ne communique pas parce que c'est des données qui sont confidentielles, parce qu'on a des concurrents, j'en ai donné un qui est Spotify, on a d'autres évidemment dans l'audio. Mais en tout cas, c'est une belle courbe de croissance qui nous permet de faire cette deuxième version à partir du mois de juillet.
À votre avis, vous tenez votre plan de départ?
On est aujourd'hui sur une bonne trajectoire par rapport à notre plan de départ, oui.
Oui, d'accord. Rentabilité, vous l'avez à vous
dans quelques années, vous savez, une start-up, c'est quand même un modèle un peu particulier. Ce qui compte, c'est notre croissance et comment on va financer cette croissance par des levées de fonds successives. On a fait deux levées de fonds en un an, au total 10 millions d'euros, pour financer à la fois la technologie et les contenus, puisque nous produisons nos propres contenus originaux qui sont accessibles via l'abonnement. Une quarantaine a été produite l'année dernière, et là, pour cette nouvelle version, on est dans la dernière ligne droite, et les équipes cravachent à fond pour enregistrer ces nouveaux programmes.
Alors, Mathieu Gallet, justement, il y a le 7 juillet prochain, je crois, là, pour être précise, lancement de cette nouvelle offre, qui sera très, alors c'est peut-être lié au déconfinement et à ce qu'on a traversé dans le confinement, qui sera très dans l'accomplissement personnel.
Oui, c'est
une grande tendance.
Oui,
ça se voit dans les succès en librairie.
On l'a décidé en décembre l'année dernière, donc bien avant qu'on sache ce qui allait se passer. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de sens, ont besoin de comprendre, ont besoin aussi d'écouter des paroles qui vont les inspirer. Et nous, c'est vraiment toute la promesse de Magellan. C'est vraiment comment on va se nourrir des paroles de personnalités qu'on va écouter à travers des masterclass. Je pense à Michel Hazanavicius, je pense aussi à Franck Hannes, Franck Hannes qui a créé le groupe Sopresse, comme quoi on peut venir dans la presse.
Il est même venu ici il y a 15 jours. Vous
voilà,
voyez,
il nous fait une masterclass magnifique. Voilà, il lance So Good, il vient de lancer So Good. Voilà, c'est vraiment des gens qui vont nous inspirer et qui vont avoir un impact sur, sur nos vies à travers ce qu'on va écouter de ces gens inspirants.
Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, Michel Hazanavicius, il va parler de quoi?
Il va parler de création, il va parler de cinéma, il va parler du processus créatif. Franck Hannes, il va parler de l'entrepreneur, mais bien sûr de la presse. Et puis on a la grande chef Anne-Sophie Pic qui va nous parler, elle aussi, la gastronomie, mais tout ce que ça recouvre derrière la question de la gastronomie, parce qu'elle aussi, c'est une chef d'entreprise.
Qu'est-ce qui marche le mieux, en fait, chez Magellan?
Eh bien, on a vu avec nos datas l'année dernière que c'était justement tout ce qui était lié au développement personnel, à l'accomplissement personnel qui marchait le mieux, mieux que ce qui est du domaine de l'entertainment. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'être beaucoup plus orienté, focalisé sur cette promesse éditoriale.
Vous parliez à l'instant de Spotify en disant que même eux ne donnaient pas leurs chiffres. Enfin, en même temps, c'est vrai qu'ils sont un tout petit peu plus d'abonnés que vous, je pense.
Hein. Ah bah oui, ils sont cotés en bourse.
Voilà. Ils viennent de signer un partenariat avec Warner Bros. Et eux, ils ont des super têtes d'affiches. Ouais. Est-ce que c'est ce qui vous manque, peut-être?
Non, parce que chacun, en fait, a son créneau. Moi, je pense que Spotify peut être un très bon évangélisateur du podcast, parce qu'ils ont un nombre d'utilisateurs très considérable, hein, je crois 120 millions dans le monde, pour écouter du streaming musical. Et donc, c'est une bonne façon de faire venir des gens à l'audio narratif. Nous, on est sur une promesse qui est beaucoup plus précise, c'est l'accomplissement personnel, quand Spotify va être plus dans l'entertainment. Et on le voit, les signatures avec Joe Rogan, avec Kim Kardashian, avec effectivement la Warner Bros. Pour DC Comics, oui, donc tous les Superman, Wonder Woman. On voit qu'on est dans une autre promesse, et en fait je pense que chaque plateforme va avoir son public, et nous c'est le chemin qu'on doit trouver avec cette V2 de Magellan.
Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'être entrepreneur en France? Est-ce que vous avez des fonds français? Vous avez des fonds
alors on a
anglo-saxons
On a été financé par Idée Invest dès le premier tour. Et dès le deuxième, on a des business angels, et puis on a BPI France qui est venu investir sur leur nouveau fonds tech et culture au mois de décembre dernier.
Oui. Et donc, vous trouvez qu'on...
Moi, je pense qu'il y a un changement il y a un changement d'époque.
Dans l'air du temps.
Dans l'air du temps.
Grâce à BFM Business, on pousse les choses.
Bah, pour montrer qu'en fait, on a beaucoup d'entrepreneurs en France, il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées, puis maintenant, on a des fonds conséquents qui sont là pour les financer, et puis surtout, on a des utilisateurs, on a des clients, c'est ça qui compte à la fin.
Ouais, surtout. Vous avez fait plus combien, vous m'avez dit, dans le cadre du confinement?
On a fait sur toute la période plus de 30%, oui, avec des pics à plus de 50%. C'était vraiment un beau succès pour nous.
Ça vous a servi. Parlons de votre livre, Le Nouveau Pouvoir de la Voix, ou comment l'audio va s'imposer à l'ère digitale. Il y a pas mal de choses assez intéressantes, du reste, sur la radio du futur, on va y revenir. Juste quand même un point, on est en France, et vous le rappelez, vous parlez du nouveau siècle de l'éloquence, mais vous rappelez qu'en France, c'est quelque chose qui date de l'école républicaine.
On a perdu, en fait, on a enseigné l'éloquence jusqu'en 1902 à l'école, et puis on a perdu cette tradition, puis là, ça revient, les concours
d'éloquence. Sauf chez les avocats, on sait qu'il y a les
concours. Exactement, alors les concours d'éloquence, notamment avec les barreaux, mais aussi maintenant, le retour de l'éloquence, de l'apprentissage de l'éloquence à l'école. Puis cette année prochaine, il y a une réforme du bac qui va prévoir un grand oral. Et donc, on va enseigner de nouveau ce pouvoir de la voix à l'école.
Oui, et de parler. Parce qu'il y a la voix, une belle voix comme la vôtre, mais il y a aussi
l'art
de parler aussi.
Mais non, en fait, la voix, c'est convaincre. Quand vous pitchez devant un investisseur, quand vous êtes en TEDx, c'est le format, c'est un apprentissage. Et je pense que c'est très important pour les jeunes de pouvoir maîtriser ces codes, de maîtriser cette voix.
Oui, c'est peut-être souvent du reste la difficulté des femmes et des femmes en politique. C'est que la voix, évidemment, elle n'est pas aussi forte.
Non, mais ça s'apprend. Je pense que c'est vraiment une question d'apprentissage.
Vous dites que pour vous, d'abord, les réseaux sociaux, ils ne vont plus être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils vont évoluer.
La preuve, je l'ai dit, Twitter, j'ai fait mon premier tweet audio juste avant de rejoindre vos studios.
Oui. Donc ça, ça est une
grande... Oui, bah, on voit aujourd'hui que les notes vocales, on peut les échanger sur Instagram, sur Snapchat, il y a déjà ça. Et puis, j'ai commencé ce livre au mois de janvier et j'ai imaginé ce que pourrait être un réseau social basé sur l'audio, seulement sur l'audio. Un peu comme était la CB dans son temps, qui est un vrai réseau social. J'en parle dans ce chapitre. Et en fait, on a appris il y a quelques semaines qu'il y avait une start-up qui est en train de flamber dans la Silicon Valley, qui s'appelle Clubhouse et qui est basée sur l'audio. C'est un réseau social basé sur l'audio. Et en fait, ça reprend les codes de la CB, mais à l'heure du numérique.
Oui, mais ça veut dire que les gens ne savent plus écrire non plus.
Mais parce que la voix vous donne d'autres possibilités. Moi, je crois que les notes vocales, ces SMS audio, c'est aussi l'occasion pour des gens qui ne maîtrisent pas très bien la langue écrite de pouvoir communiquer de façon beaucoup plus simple avec leur communauté.
Il y a plus d'émotions peut-être aussi.
Aussi.
Oui.
Oui, en fait, la voix, c'est le moyen de communiquer le plus naturel entre deux humains.
Oui. Vous dites, dans une société où la lutte est d'une féroce pour capter notre attention et où chacun éprouve un besoin d'accompagnement personnalisé, l'audio narratif. Parce qu'en fait, quand vous parlez de l'audio, bah, évidemment, c'est un plaidoyer pour Magellan, mais c'est
exactement.
Vous faites, mais l'audio narratif, et que, ça évite de lire un livre. Et donc,
c'est un autre cas d'usage. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de passerelles entre justement l'édition et le podcast et le domaine de l'audio narratif, parce qu'on peut avoir des formes courtes à partir de livres, des sortes de digest audio, de même qu'aujourd'hui on a des podcasts qui sont adaptés en livre. Il y a quelques semaines, le studio Nouvelles Écoutes a signé un accord avec Marabout pour pouvoir éditer les podcasts en version écrite en livre.
Oui, alors j'ai pris votre livre à l'envers, hein, j'ai commencé par la fin et là je remonte. Quand vous dites parler est tout d'abord beaucoup plus facile qu'écrire, donc vous allez dans mon sens.
C'est plus naturel.
C'est beaucoup plus. C'est plus facile.
Ah, on le fait plus jeune. Oui. L'apprentissage de la langue parlée, on commence plus tôt que l'écrit à l'école.
Et alors pourquoi vous publiez un livre écrit ?
Ah. Parce que on a besoin que ça reste.
C'est intéressant, ça veut dire ça.
Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc moi, je souhaite que les paroles ne s'envolent pas. Et Magellan est justement là pour capter ces paroles-là. C'est notre conviction. Mais le livre, c'est aussi une façon de laisser une trace. Une autre trace.
Mais alors, ça veut dire que le pouvoir de l'image, à votre avis, parce que là, on est complètement dominé par l'image.
On est dominé par l'image, mais pas que. Et c'est justement ce que je montre dans le livre, c'est comment la voix, elle est aujourd'hui partout. Je vous dis, même les réseaux sociaux s'y mettent, même le commerce se fait par la voix. Aujourd'hui, avec une enceinte connectée, vous commandez vos courses. C'est ce que Carrefour a annoncé la semaine dernière. Ça n'empêche pas d'avoir la voix, d'avoir les écrans, mais la voix, c'est un autre cas d'usage. Moi, par exemple, c'est quand je fais mon sport ou quand je marche dans la rue ou que je prends le métro, que j'écoute des contenus audio narratifs. C'est vrai que lire, c'est un autre plaisir, c'est un autre moment de la journée. La force de l'audio, c'est quand même de vous accompagner tout au long de la journée.
La question, parce qu'on a toujours besoin d'incarnation, on voit bien que c'est les influenceuses, enfin, on voit bien qu'il y a des gens qui sont suivis par les Kardashians, sont suivis par des millions de personnes de par le monde. Il y a aussi cette application TikTok où on crée des stars. Je regardais ça hier soir, c'est incroyable, quoi.
Oui, mais je pense que...
C'est suivi par des millions, voire un milliard.
Ouais, maintenant. Oui. Et je pense qu'effectivement, la voix est aussi... l'occasion de faire découvrir de nouveaux talents. Des gens qui effectivement commencent, prennent le pouvoir à travers le podcast, puisque le podcast c'est peu coûteux à produire. Ça donne la voix à des gens qui ne l'ont pas en fait dans les grands médias, et c'est ce côté très démocratique du podcast que je défends d'ailleurs dans le livre.
Oui, et est-ce qu'en même temps on voit bien quand même que s'il fallait faire une chaîne, vous voyez, une progression dans l'évolution de l'ère digitale, elle serait quoi votre chaîne?
La prochaine révolution digitale, c'est celle de la voix. L'arrivée...
Oui, mais l'IP sur Internet, ça fait 10 ans que ça existe, quoi.
Oui, mais ça ne se substitue pas, ça se complète. Et on voit aujourd'hui que un réseau social comme Snapchat, ou Instagram, qui sont basés sur l'image, ils ont introduit des fonctions vocales, ce qui prouve bien qu'il y a une forme de convergence et que l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, et en termes de médias, les conséquences que ça peut avoir, parce que vous, Magellan, vous n'êtes pas un média, mais on voit bien qu'il y a plein d'applications. Même, on peut dire que presque Instagram est un média.
Aujourd'hui,
même TikTok est presque un média.
C'est, oui, exactement. Voilà, et ça, ça vient bousculer les médias qui partaient de haut en bas, les médias du broadcast. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux, ces médias sociaux permettent de communiquer de pair à pair. Et c'est là où il y a un vrai changement et où il y a une réinvention. C'est ce que je dis en disant, mais où va la radio, par exemple? Je pense que si la radio ne prend pas ces codes aujourd'hui sociaux, notamment la connaissance par les data.
Ça veut dire quoi, ça?
Les données, parce qu'aujourd'hui, la radio est mesurée par Médiamétrie tous les trois mois.
Ouais.
Quand aujourd'hui, sur Spotify ou sur Magellan, on sait en temps réel ce que font nos utilisateurs. Donc ça vous permet d'avoir des données d'usage qui, derrière, vous permettent de bien mieux connaître vos utilisateurs et de pouvoir aussi leur laisser à entendre des contenus qui vont davantage leur correspondre.
Ouais.
Vous avez un côté très sur mesure avec les plateformes que la radio n'a pas. Puisque la radio, elle est généraliste, elle s'étend à tout le monde.
Oui, et donc, vous dites quelle implication ça a justement sur la radio de demain? Cette notion de mesure qui est très importante, vous avez raison.
Elle est cruciale et je pense que si les radios ne comprennent pas qu'elles doivent devenir des plateformes, elles vont définitivement s'adresser aux plus âgés. Et l'enjeu, c'est le renouvellement des publics, et notamment des plus jeunes, mais aussi le renouvellement en termes sociologiques. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas avoir que des médias mainstream qui ne ressemblent pas à la société dans sa diversité. Et c'est là où les médias, comme le podcast, ont cette force, c'est qu'en fait, chaque communauté peut réussir à prendre la voix et à s'exprimer auprès de sa communauté, à défendre ses idées.
Quel est pour vous le... Je ne sais pas, s'il y a un modèle à suivre, ce serait quoi?
Netflix, c'est forcément un modèle.
Non, mais là, c'est le cinéma, on n'est pas dans la voie, justement.
Oui, mais justement, oui, c'est Netflix, c'est un modèle intéressant.
Mais je vous ai tendu un piège, vous êtes tombé dedans.
Non, oui. Je ne sais pas si c'était un piège, c'est plutôt un modèle de réinvention.
Ça ne va pas tellement dans le sens de votre livre.
Si, parce qu'aujourd'hui, je pense que des plateformes comme nous, comme Magellan, sont inspiré par ce que Netflix a fait. Je pense qu'un Spotify est inspiré aussi par ce que Netflix a fait, avec une différence, c'est que nous produisons nos propres contenus, alors qu'un Spotify achète et distribue les contenus des autres. Le fait qu'ils aillent dans le podcast, c'est bien la preuve qu'ils ont compris que la valeur, elle était dans le contenu. Ce que nous avons cru, nous, dès le départ, avec mon associé Arthur, c'est que être propriétaire de ses contenus, ça crée énormément de valeur. Être propriétaire de sa technologie, connaître grâce aux données ses utilisateurs, ça a énormément de valeur.
Ouais. Et donc, il faut créer autour d'un média une plateforme.
Pour moi, c'est crucial parce que c'est comme ça que vous connaissez vos utilisateurs. C'est comme ça que vous allez améliorer l'expérience de vos utilisateurs, les fidéliser et que vous allez effectivement aussi faire monter en puissance votre production pour pouvoir effectivement avoir le meilleur programme auprès du meilleur public au meilleur moment.
Les médias traditionnels, la télé linéaire, comme on dit, pour vous aussi, c'est terminé?
Je ne crois pas qu'on passera dans tout délinéarisé. Je crois qu'il y a des moments de la journée, on l'a vu.
Linéaire, ça veut dire qu'on est derrière son poste.
Exactement. Je pense que les matinales radio resteront fortes. Je pense que le journal de 20h reste encore un moment de rassemblement. Et on a besoin, au moment où on a un choix qui a explosé grâce au numérique, d'avoir aussi des programmateurs, d'avoir aussi une éditorialisation. Et c'est là où les médias traditionnels sont très forts.
Oui, c'est là où le foot manque à beaucoup de Français. On peut dire ça comme ça.
Il n'y a pas que le foot. Oui.
Je caricature un tout petit peu, mais c'est sûr que c'est des grands moments qui rassemblent.
De communion.
En fait. Oui, de communion nationale. Merci beaucoup. On apprend plein de choses. Le nouveau pouvoir de la voix, Mathieu Gallet, et c'est donc publié au débat public. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'heure H. Bien sûr, la journée continue. Ici, on est toujours en négociation à BFM. On vous tient au courant. Bonne journée.